Chapitre 7. Ce qui se dit à la table de M. Minxit. L'heure du dîner arriva. Quoique M. Minxit n'eût invité que quelques personnes autres que celles à nous connues, le curé, le tabellion et un de ses confrères du voisinage, la table était chargée d'une profusion de canards et de poulets, les uns couchés dans une majestueuse intégrité au milieu de leur sauce, les autres étalant symétriquement sur l'ellipse de leur plat leurs membres désarticulés. Le vin était du reste d'une certaine côte de Trucie, dont les cèpes, malgré le nivellement qui a passé sur nos vignobles comme sur notre société, ont conservé leur aristocratie et jouissent encore d'une réputation méritée. « Mais, dit mon oncle à M. Minxit, à l'aspect de cette abondance homérique, il y a ici toute une basse-cour, mais cela suffirait à rassasier une compagnie de dragons après la grande manœuvre. Est-ce que par hasard vous attendez notre ami Artus ?»« Oh, j'aurais fait mettre une broche de plus, répondit en riant M. Minxit. Mais si nous ne pouvons venir à bout de tout cela, il se trouvera bien des gens qui achèveront notre besogne. » Et mes officiers, enfin, c'est-à-dire ma musique et les clients qui viendront demain m'apporter leurs fioles, est-ce qu'il ne faut pas que je songe à eux? J'ai pour principe, moi, que celui qui ne fait préparer un dîner que pour lui n'est pas digne de dîner. C'est juste, répliqua mon oncle. Et après cette réflexion philosophique, il se mit à attaquer les poulets de M. Minxit comme s'il eût eu contre eux une animité personnelle. Les convives se convenaient, et du reste, mon oncle convenait à tout le monde, et tout le monde lui convenait. Il jouissait franchement et très bruyamment de l'hospitalité plantureuse de M. Minxit. « Fifre !» dit celui-ci à un des valets qui servait à table. « Fais apporter du Bourgogne, et va dire à la musique qu'elle se rende ici avec carmes et bagages. Il n'y a point d'exemption pour les hommes ivres. » La musique arriva bientôt et se rangea autour de la salle. M. Minxit, ayant décoiffé quelques bouteilles de Bourgogne, leva solennellement son verre plein. « Messieurs, dit-il à la santé de M. Benjamin Rattray, le premier médecin du bailliage, je vous le présente comme mon gendre et vous prie de l'aimer comme vous m'aimez. Allez, musique !» Alors un bruit infernal de grosses caisses, de triangles, de cymbales et de clarinettes éclata dans la salle, et mon oncle se trouva obligé de demander grâce pour les convives. Cette notification un peu trop officielle et trop prématurée fit faire à Mademoiselle Minxit une grosse moue et une large grimace. Benjamin, qui avait bien autre chose à faire qu'à épiloguer ce qui se passait autour de lui, ne s'aperçut de rien, mais cette marque de répugnance n'échappa pas à ma grand-mère. Son amour-propre en fut vivement blessé, car si Benjamin n'était pas pour tout le monde le plus joli garçon du pays, il était au moins pour sa sœur. Après avoir remercié M. Minxit de l'honneur qu'il faisait à son frère, elle ajouta, mordant dans chaque syllabe, comme si elle eût tenu la pauvre Arabelle sous ses dents, que la principale, l'unique raison qui avait déterminé Benjamin à solliciter l'alliance de M. Minxit, c'était la haute considération dont lui, M. Minxit, jouissait dans toute la contrée. Benjamin crut que sa sœur avait dit une sottise, et il se hâta d'ajouter « Et aussi les grâces et les charmes de toute espèce dont Mademoiselle Arabelle est si abondamment pourvue. » Et qui promettent à l'heureux mortel qui sera son époux des jours filés d'or et de soie. Puis, comme pour apaiser le remords qu'il éprouvait de ce triste compliment, le seul qu'il eût encore dépensé avec Mademoiselle Minxit et que sa sœur l'avait obligé de commettre, il se mit à dévorer avec acharnement une aile de poulet et vida d'un trait un grand verre de vin de Bourgogne. Il y avait là trois médecins, on devait parler médecine, et on en parla. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Minxit, dit monsieur Fatah, que votre gendre était le premier médecin du bailliage. Oh, je ne proteste pas pour moi, quoi qu'on ait fait certaines cures, mais que pensez-vous du docteur Arnoux de Clamcy? Oh, demandez cela à Benjamin, dit monsieur Minxit. Il le connaît mieux que moi. Oh, monsieur Minxit, répondit mon oncle, un concurrent. Mais qu'est-ce que cela fait? Est-ce que tu as besoin de rabaisser tes concurrents, toi? Mais dis-nous ce que tu en penses, pour obliger Fatah. Eh bien, puisque vous le voulez, je pense que le docteur Arnoux a une superbe perruque. Et pourquoi, dit Fatah, un médecin à perruque ne vaudrait-il pas un médecin à queue? Mais la question est d'autant plus délicate que vous avez vous-même une perruque, monsieur Fatah. Mais je vais tâcher de m'expliquer sans blesser l'amour-propre de qui que ce soit. Mais voilà un médecin qui a des connaissances plein la tête, qui a fouillé tous les bouquins écrits sur la médecine, qui sait de quel mot grec viennent les 500 à 600 maladies qui atteignent notre pauvre humanité. Eh bien, s'il n'a qu'une intelligence bornée, je ne voudrais pas lui confier mon petit doigt à guérir. Je donnerai la préférence à un battleur intelligent, car sa science, à lui, c'est une lanterne qui n'est pas éclairée. On a dit « tant vaut l'homme, tant vaut la terre ». Il serait aussi vrai de dire « tant vaut l'homme, tant vaut la science ». Et cela est surtout vrai de la médecine, qui est une science conjecturale. Là, il faut deviner les causes par des effets équivoques et incertains. Ce pouls qui reste muet sous le doigt d'un sot fait à l'homme d'esprit des confidences merveilleuses. Allez, deux choses sont surtout nécessaires pour réussir en médecine, et ces deux choses ne s'acquièrent pas. C'est la perspicacité et l'intelligence. Tu oublies, dit monsieur Minxit en riant, les cymbales et la grosse caisse. Oh, fit Benjamin. À propos de votre grosse caisse, il me vient une excellente idée. Auriez-vous une place vacante dans votre musique? Pour qui donc? Dit M. Minxit. Bien, pour un vieux sergent de ma connaissance et un caniche, répondit Benjamin. Et de quel instrument peuvent s'escrimer les deux protégés? Oh, je ne sais pas, dit Benjamin. De celui que vous voudrez, probablement. Ben, nous pourrons toujours faire panser mes 4 chevaux à ton vieux sergent, en attendant que mon maître de musique l'ait mis au courant d'un instrument quelconque, ou bien il pliera mes drogues. À propos, dit mon oncle, nous pourrions en tirer un meilleur parti. Il a une figure rissolée comme un poulet qui sort de la broche. On dirait qu'il n'a fait toute sa vie que de passer et repasser sous la ligne. Vous le prendriez pour le bonhomme tropique en personne. Avec cela, il est sec comme un vieil os brûlé. Nous dirons que c'est un sujet dont nous avons extrait la graisse pour composer une pommade. Cela se placera mieux que de la graisse d'ours. Ou bien nous le ferons passer pour un vieillard nubien de, je sais pas, 140 ans. Qui aura prolongé ses jours jusqu'à cet âge extraordinaire avec un élixir de longue vie, dont il nous aura transmis le secret, moyennant une pension viagère. Or, ce précieux élixir, nous le vendrons pour la bagatelle de 15 sous la fiole. Ce ne sera pas la peine de s'en passer. Fiche, t'en dit M. Minxit. Oh, mais je vois que tu entends la médecine à grand orchestre. Ben, envoie-moi ton bonhomme quand tu voudras. Je le prends à mon service, soit comme nubien, soit comme vieillard desséché. En ce moment, un domestique entra dans la salle, tout effaré, et dit à mon oncle qu'il y avait dans l'écurie une 20aine de femmes qui arrachaient la queue de son âne, et que, comme il avait voulu les disperser à coups de fouet, elles avaient failli le mettre en pièces avec le tranchant de leurs ongles. Oh, je vois ce que c'est, dit mon oncle, éclatant de rire. Elles arrachent les crânes-lânes de la Sainte Vierge pour faire des reliques. Monsieur Minxit voulut qu'on lui expliquât l'affaire. Monsieur, s'écria-t-il quand mon oncle eut terminé son récit, mais nous sommes des impies. Si nous adorons Benjamin Pasteur, il faut que vous en fassiez un saint. Oh, je proteste, dit Benjamin, je ne veux pas aller au paradis, car n'y rencontrerai aucun de vous. Mais riez, messieurs, dit ma grand-mère après avoir fri elle-même. Ça ne me fait pas rire, moi. Voilà toujours le résultat des mauvaises farces de Benjamin. Monsieur Durand nous fera payer son âne si nous lui rendons tel qu'il nous l'a confié. En tout cas, dit mon oncle, il ne peut toujours nous en faire payer que la queue. L'homme qui m'aurait coupé la queue à moi, et ma queue vaut bien assurément, sans la flatter, celle de l'âne de Monsieur Durand. Serait-il donc aussi coupable devant la justice que s'il m'eût tué tout entier ? Ah, assurément non, dit M. Minxit. Et si vous t'en dire mon avis, je t'en estimerai pas une obole de plus loin. Cependant, la cour s'emplissait de femmes qui se tenaient dans une posture respectueuse, comme on se tient autour d'une chapelle trop étroite, tandis qu'on y célèbre l'office et dont un grand nombre était à genoux. Il faut que vous nous débarrassiez de ce monde, dit M. Minxit à Benjamin. Oh, rien de plus facile, répondit celui-ci. Il se mit alors à la fenêtre et dit à ses bonnes gens qu'ils auraient tout le temps de voir la Sainte Vierge, qu'elle se proposait de rester 2 jours chez M. Minxit et que le lendemain dimanche, elle ne manquerait pas d'assister à la grand-messe. Sur cette assurance, le peuple se retira satisfait. Voilà, dit le curé, des paroissiens qui ne me font pas beaucoup d'honneur. Il faut que dimanche je leur en dise quelque chose dans mon prône. Mais comment peut-on être si bordé de prendre pour une chose sainte la queue crottée d'un bourriquet ? Mais, pasteur, répondit Benjamin, vous qui êtes à table, si philosophe, n'avez-vous pas dans votre église 2 ou 3 os blancs comme du papier, qui sont sous verre et que vous appelez les reliques de Saint Maurice ? Oh, ce sont des reliques épuisées, poursuivit M. Minxit. Il y a plus de 50 ans qu'elles n'ont fait de miracle. Monsieur le curé ferait bien de s'en débarrasser et de les vendre pour composer du noir animal. Moi-même, je les prendrai pour faire de l'album grecum, si vous voulez me les céder à un juste prix.
Qu'est-ce que c'est que cela de l'album grecum ? Fit naïvement ma grand-mère.
Non, madame, ajouta M. Minxit en s'inclinant, c'est du blanc grec. Je regrette de ne pouvoir vous en dire davantage.
Pour moi, dit le tabellion, petit vieillard en perruque blanche dont l'œil était plein de malice et de vivacité, je ne reproche pas au pasteur la place honorable qu'il a donnée dans son église au tibia de Saint-Maurice. Saint-Maurice, sans aucun doute, avait des tibias de son vivant. Mais pourquoi ne serait-il pas ici, aussi bien qu'ailleurs ? Je suis même étonné d'une chose, c'est que la fabrique ne possède pas ses bottes à l'écuyère de notre patron. Mais je voudrais qu'à son tour, le pasteur fût plus tolérant et qu'il ne reprochât pas à ses paroissiens la foi qu'ils ont aux juifs errants. Ne pas croire assez est aussi bien une marque d'ignorance que de trop croire.
Comment, reprit vivement le curé, vous, monsieur le tabellion, vous croiriez aux juifs errants ?
Mais pourquoi donc n'y croirais-je pas aussi bien qu'à Saint-Maurice ?
Et vous, monsieur le docteur, dit-il en s'adressant à Fata, croyez-vous aux juifs errants ? Fit celui-ci en absorbant une grosse prise de tabac. Et pour vous, respectable monsieur Minxit ?
Moi, interrompit monsieur Minxit. Je pense comme le confrère, excepté qu'au lieu d'une prise de tabac, c'est un verre de vin que je m'administre.
Vous, du moins, monsieur Rattery, qui passez pour un philosophe, j'espère bien que vous ne faites pas aux juifs errants l'honneur de croire à ces éternelles pérégrinations.
Pourquoi pas ? Dit mon oncle. Vous croyez bien à Jésus-Christ, vous ?
Oh, c'est différent, répondit le curé. Je crois à Jésus-Christ parce que, si son existence ni sa divinité ne peuvent être révoquées en doute,
parce que les évangélistes qui ont écrit son histoire sont des hommes dignes de foi, parce qu'ils ont pu se tromper, parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt à tromper leur prochain, et que quand bien même ils l'eussent voulu, la fraude n'eût pu s'accomplir. Si les faits consignés par eux étaient controuvés, si l'évangile n'était, comme le Télémaque, qu'une espèce de roman philosophique et religieux à l'apparition de ce livre fatal qui devait répandre le trouble et la division à la surface de la terre, qui devait séparer l'époux de l'épouse, les enfants de leur père, qui réhabilitait la pauvreté, qui faisait l'esclave l'égal du maître, qui heurtait toutes les idées admises, qui honorait tout ce qui jusqu'alors avait été méprisé et jetait comme ordure au feu de l'enfer tout ce qui avait été honoré, qui renversait la vieille religion des païens et sur ses débris établissait à la place d'autel le gibet d'un pauvre fils de charpentier. « Oh, monsieur le curé, dit monsieur Manxit, votre période est trop longue, il faut la couper par un verre de vin. » Monsieur le curé, donc, ayant bu un verre de vin, poursuivit. À l'apparition de ce livre, dis-je, les païens eussent jeté un immense cri de protestation, et les juifs, qui l'accusaient du plus grand crime qu'un peuple puisse commettre, d'un déicide, l'eussent poursuivi de leurs éternelles réclamations. Mais, dit mon oncle, le juif errant a pour lui une autorité qui n'est pas moins puissante que celle de l'Évangile. C'est la complainte des bourgeois de Bruxelles, en Brabant, qu'ils rencontrèrent aux portes de la ville et leur régalèrent d'un pot de bière fraîche. Les évangélistes sont des hommes dignes de foi, soit, mais au fait, ces évangélistes, à l'inspiration près, que sont-ils? Oh, des hommes de rien! Des hommes qui n'avaient ni feu ni lieu, qui ne payaient point de contribution et que poursuivaient aujourd'hui le parquet pour vagabondage. Les bourgeois de Bruxelles, au contraire, étaient des hommes établis, des hommes qui avaient pignon sur rue. Plusieurs, j'en suis bien sûr, étaient syndics ou marguilliers. Si les évangélistes et les bourgeois de Bruxelles pouvaient avoir une discussion devant le bailli, je suis bien sûr que c'est aux bourgeois de Bruxelles que le magistrat déférerait le serment. Les bourgeois de Bruxelles n'ont pas pu se tromper, car enfin un bourgeois, c'est pas un mannequin, un gargamel, un homme de pain d'épices. Il n'est pas plus difficile de distinguer un vieillard de 1700 ans passés d'un moderne que de distinguer un vieillard de l'espèce commune d'un enfant de 5 ans. Les bourgeois de Bruxelles n'avaient aucun intérêt à tromper leurs concitoyens. Peu leur importait à eux qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas un homme qui marche toujours. Et quel honneur pouvait-il leur revenir de s'être attablé dans une brasserie avec le superlatif des vagabonds, avec une espèce de damné, plus misérable 100 fois qu'un galérien, auquel je ne voudrais pas, moi, ôter mon chapeau, et d'avoir bu avec lui de la bière fraîche. Et même, à bien prendre la chose, ils ont agi en publiant leurs complaintes, plutôt que contre leur intérêt, et que dans leur intérêt, car ce morceau de poésie n'est pas de nature à donner une haute opinion de leur valeur poétique. Et le tailleur Miorato, dont j'ai maintes fois surpris le grand Noël autour d'un morceau de fromage de brie, est un Virgile en comparaison d'eux. Les bourgeois de Bruxelles n'auraient pu tromper leurs concitoyens, quand bien même ils l'auraient voulu. Si les faits célébrés dans leurs complaintes étaient controuvés, à l'apparition de cet écrit, les habitants de Bruxelles eussent réclamé. La police eût cherché sur ses registres si un sieur Isaac Lacdem n'était pas passé tel jour à Bruxelles. Et elle eût réclamé. Les cordonniers dont le procédé brutal du juif errant, qui tirait lui-même de la manicle, a déshonoré à tout jamais la vénérable confrérie, n'eût-ce pas manqué de réclamer. C'eût été en un mot un concert de réclamations à faire crouler les tours de la capitale du Brabant. D'ailleurs, sous le rapport de la crédibilité, la complainte du juif errant a sur l'évangile de notables avantages. Elle n'est point tombée du ciel comme un aérolithe. Elle a une date précise. Le premier exemplaire a été déposé à la Bibliothèque royale, bien et dûment revêtu du nom de l'imprimeur et de la désignation de son domicile. Et l'évangile, cependant, n'a point de date. À la Complainte de Bruxelles est joint le portrait du juif errant en tricorne, en polonaise, en bottes à l'écuyère, et portant une canne démesurée. Cependant, aucune médaille qui nous transmette l'effigie de Jésus-Christ n'est venue jusqu'à nous. La Complainte du juif errant a été écrite dans un siècle éclairé, investigateur, puis disposé à retrancher de ses croyances qu'à ajouter. Et l'Évangile, au contraire, a apparu tout à coup comme un flambeau allumé, on ne sait pas par qui, au milieu des ténèbres d'un siècle livré à de grossières superstitions, chez un peuple plongé dans l'ignorance la plus profonde, et dont l'histoire n'est qu'une longue suite d'actes de superstition et de barbarie. Permettez, monsieur Benjamin, dit le notaire, vous avez dit que les bourgeois de Bruxelles n'avaient pu se tromper sur l'identité du juif errant. Cependant, les habitants de Moulot vous ont pris ce matin pour le juif errant. Vous avez même eu cette qualité, faite en présence de tout le peuple de Moulot, un miracle authentique. Votre démonstration pèche donc par un côté, et vos règles relativement à la certitude historique ne sont pas infaillibles. « L'objection est forte, » dit Benjamin en se grattant la tête. « Je conviens qu'il m'est impossible d'y répondre. Mais elle s'applique aussi bien au Jésus-Christ de monsieur qu'à mon juif errant. »«
Oh, ça !» interrompit ma grand-mère, qui allait toujours au fait. « J'espère que tu crois en Jésus-Christ, Benjamin. »«
Oh, sans doute, ma chère sœur, je crois en Jésus-Christ. » J'y crois d'autant plus fermement que, sans croire à la divinité de Jésus-Christ, on ne peut croire à l'existence de Dieu. Que les seules preuves qu'il y ait de l'existence de Dieu, ce sont les miracles de Jésus-Christ. Mais, fichtre, cela ne m'empêche pas de croire aux juifs errants. Ou pour mieux dire, voulez-vous que je vous explique ce que c'est pour moi que le juif errant ? Le juif errant, c'est l'effigie du peuple juif. Crayonné par quelque poète inconnu d'entre le peuple, sur les murs d'une chaumière. Et ce mythe est si frappant qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Le juif errant n'a point de toit, point de foyer, point de domicile légal et politique. Le peuple juif n'a point de patrie. Le juif errant est obligé de marcher sans s'arrêter, sans prendre haleine, ce qui doit être très fatigant pour lui, avec des bottes à l'écuyère. Il a déjà fait 7 fois le tour du monde. Le peuple juif n'est établi nulle part d'une manière fixe. Il demeure partout, sous des tentes. Il va et vient incessamment, comme les flots d'océan. Et lui aussi, comme une écume qui flotte à la surface des nations, comme un fétu emporté par le cours de la civilisation, a déjà fait bien des fois le tour du monde. Le juif errant a toujours 5 sous dans sa poche. Le peuple juif, ruiné sans cesse par les exactions de la noblesse féodale et par les confiscations des rois, revenait toujours, comme un liège qui du fond de l'eau remonte à sa surface, à une situation prospère. Son opulence repoussait d'elle-même. Le juif errant ne peut dépenser que 5 sous à la fois. Le peuple juif, obligé de dissimuler ses richesses, est devenu chiche et parcimonieux, il dépense peu. Le supplice du juif errant durera toujours. Le peuple juif ne peut pas plus se réunir en corps de nation que les cendres d'un chêne frappé par la foudre ne peuvent se réunir en arbre. Il est dispersé jusqu'à la consommation des siècles, à la surface de la terre. À sérieusement parler, c'est sans doute une superstition de croire aux juifs errants. Mais je vous dirai ce qui est dit dans l'Évangile. Que celui qui est exempt de toute superstition jette aux habitants de Moulot la première sarcasme. Le fait est que nous sommes tous superstitieux, les uns plus, les autres moins. Et souvent celui qui a une loupe sur l'oreille, grosse comme une pomme de terre, se gausse de celui qui a un poireau au menton. Il n'y a pas deux chrétiens qui aient les mêmes croyances, qui admettent et rejettent les mêmes choses. L'un fait maigre le vendredi et ne va pas aux offices. L'autre va aux offices et met le pot-au-feu le vendredi. Cette dame se moque du vendredi comme du dimanche et se croirait damnée si elle n'était pas mariée à l'église. Soit la religion une bête à sept cornes. Celui qui ne croit qu'à six de ses cornes se moque de celui qui croit à la septième. Et celui qui ne lui accorde que cinq cornes se moque de celui qui en reconnaît six. Le déiste survient qui se moque de tous ceux qui croient que la religion a des cornes. Et enfin passe l'athée qui se moque de tous les autres. Et pourtant l'athée croit à Cagliostro et se fait tirer les cartes. En définitive, il n'y a qu'un homme qui ne soit pas superstitieux, c'est celui qui ne croit qu'à ce qui lui est démontré. Il était nuit et plus que nuit quand ma grand-mère déclara qu'elle voulait partir. Oh, je ne laisserai partir Benjamin qu'à une condition, dit M. Minxit. C'est qu'il me promettra d'assister dimanche à une grande partie de chasse que je décrète en son honneur. Il faut bien qu'il fasse connaissance avec ses bois et les lièvres qui sont dedans. Mais, dit mon oncle, c'est que je ne sais pas les premiers éléments de la chasse. Je distinguerai très bien un civet ou un rable de lièvre d'une gibelotte de lapin, mais comme Iorato me chante son grand Noël, si je suis capable de distinguer un lièvre qui court d'un lapin courant. Ben, tant pis pour toi, mon ami, mais c'est une raison de plus pour que tu viennes. Il faut bien connaître un peu de tout. Ben, vous verrez, monsieur Minxit, que je ferai un malheur. Je tuerai un de vos instruments de musique. Ah, oh, fiche, ne t'avise pas de cela, au moins. Il faudrait que je les payasse plus cher qu'il ne vaut à sa famille désolée. Mais pour éviter tout accident, bon, tu chasseras avec ton épée. Bon, eh bien, je promets, dit mon oncle. Et là-dessus, il prit congé avec sa chère sœur de M. Minxit. Savez-vous, dit Benjamin à ma grand-mère quand ils furent sur le chemin, que j'aimerais mieux épouser M. Minxit que sa fille? Ah, il ne faut vouloir que ce qu'on peut, et tout ce qu'on peut, il faut le vouloir, répondit sèchement ma grand-mère. Mais, prenez garde à l'âne, et ne le piquez pas, comme ce matin, de votre épée. Voilà tout ce que je vous demande. Mais vous me boudez, ma sœur, vous voudrez savoir pourquoi. Eh bien, je vais vous le dire, parce que vous avez trop bu, trop discuté, et que vous n'avez rien dit à mademoiselle Arabelle. Allez maintenant, laissez-moi tranquille.
Chapitre 8. Comment mon oncle embrassa un marquis. Le samedi suivant, mon oncle alla coucher à Corvol. On partit le lendemain au lever du soleil. M. Minxit était accompagné de tous ses gens et de plusieurs amis, dont le confrère Fasla faisait partie. C'était par un de ces jours splendides que le sombre hiver, semblable à un geôlier qui sourit, donne de temps en temps à la terre. Février semblait avoir emprunté au mois d'avril son soleil. Le ciel était limpide et le vent du midi emplissait l'atmosphère d'une molle tiédeur. La rivière fumait au loin entre les saules. La gelée blanche du matin pendait en gouttelettes aux branches des buissons. Les petits pâtres chantaient pour la première fois de l'année dans les prés, et les ruisselets qui descendent de la montagne du Flaise, réveillés par la chaleur du soleil, gazouillaient au pied des haies. « Monsieur Fata, dit mon oncle, voilà une belle journée. Est-ce que nous la passerons entre les rameaux mouillés des bois ?»« Ce n'est pas mon avis, confrère, répondit celui-ci. Si vous voulez venir chez moi, je vous montrerai un enfant à quatre têtes que j'ai serré dans un bocal. Monsieur Minxit m'en offre 300 francs. « Vous feriez bien de le lui céder, dit mon oncle, et de mettre du cassis à la place. »« Cependant, comme il avait de bonnes jambes et qu'il n'y avait que 2 petites lieues de là à Varzy, il se décida à suivre le confrère. Ils quittèrent donc, Fata et lui, le gros des chasseurs, et s'enfoncèrent dans un chemin de travers qui s'égarait dans la prairie. Bientôt, ils se trouvèrent vis-à-vis Saint-Pierre-du-Mont. Or, Saint-Pierre-du-Mont est un gros monticule situé sur la route de Clamecy à Varzy. Il est à sa base revêtu de prairies et tout ruisselant de sources, mais ras et nu à son sommet. Vous diriez une grande motte de terre soulevée dans la plaine par une taupe gigantesque. Sur son crâne pelé et teigneux était alors un reste de château féodal, aujourd'hui remplacé par une élégante maison de campagne qu'habite un engraisseur de bestiaux. Car c'est ainsi que, par un travail insensible, les œuvres de l'homme, comme celles de la nature, se décomposent et se recomposent. Les murs du castel étaient démantelés, ses créneaux édentés en maints endroits. Les tours semblaient avoir été cassées par le milieu et elles étaient réduites à l'état de tronçons. Ses fossés, taris à moitié, étaient encombrés par de grandes herbes et une forêt de roseaux, et son pont-levis avait fait place à un pont de pierre. L'ombre sinistre de ce vieux débris de la féodalité attristait tous les environs. Les chaumières avaient reculé devant lui. Les unes étaient allées sur le coteau voisin, former le village de Flaise. Les autres étaient descendues dans la vallée et s'étaient groupées en hameaux le long de la route. Le maître de cette vieille gentilhommière était alors un certain marquis de Cambise. Monsieur de Cambise était grand, épais, fortement charpenté, et avait la force d'un géant. Vous eussiez dit une ancienne armure faite de chair. Il était d'un caractère violent, emporté, susceptible jusqu'à l'excès, ne pouvant supporter aucune contradiction, et d'un orgueil qui allait jusqu'à la sottise. Il était d'ailleurs entiché de sa noblesse, et s'imaginait que les Cambyses étaient une œuvre hors ligne dans la création. Il avait été quelque temps officier de mousquetaires, je ne sais de quelle couleur, mais il était mal à son aise à la cour. Sa volonté s'y trouvait comprimée, sa violence ne pouvait y faire explosion. Et il était d'ailleurs étouffé au milieu de cette poussière de hobereau qui chatouillait et tourbillonnait autour du trône. Il était revenu dans ses terres et il y vivait en petit monarque. Le temps avait emporté un à un les vieux privilèges de la noblesse, mais lui les avait gardés de fait et les exerçait dans toute leur plénitude. Il était encore maître absolu non seulement de ses domaines, mais encore dans tout le pays des environs. C'était, à la rondage près, un véritable seigneur féodal. Il rossait les paysans, il leur prenait leurs femmes quand elles étaient gentilles. Il envahissait leurs terres avec ses meules, foulait leurs récoltes aux pieds de ses valets, et faisait mille avanies aux bourgeois qui se laissaient rencontrer par lui autour de sa montagne. Il faisait du despotisme et de la violence par caprice, par divertissement, et surtout par amour propre. Afin d'être le personnage le plus éminent du pays, il avait voulu en être le plus méchant. Il ne savait pas de meilleure manière pour démontrer sa supériorité aux gens que de les opprimer. Pour être célèbre, il s'était fait méchant. C'était, au volume près, la puce qui ne peut vous faire apercevoir de sa présence entre vos draps qu'en vous piquant. Quoique riche, il avait des créanciers, mais il se faisait un point d'honneur de ne pas les payer. Telle était la terreur de son nom que vous n'eussiez pas trouvé dans le pays un huissier pour la signer. Un seul, le père Balivet, avait osé lui remettre une cédule en main propre et parlant à sa personne. Mais il avait risqué sa vie. Honneur donc au généreux père Balivet, huissier royal qui exploitait pour tout le monde et 2 lieues au-delà, ainsi que le disaient les mauvais plaisants du pays, pour tenir la gloire de ce grand huissier. Voici du reste comment il s'y était pris. Il avait empaqueté sa cédule dans une demi-douzaine d'enveloppes perfidement cachetées et l'avait présentée à M. de Cambise comme un paquet venant du château de Vilaine. Tandis que le marquis démaillotait l'exploit, il s'était esquivé sans bruit, avait gagné la grande porte et avait enfauché son cheval qu'il avait attaché à un arbre à quelque distance du château. Quand le marquis eut connaissance de ce que contenait le paquet, furieux d'avoir été la dupe d'un huissier, il ordonna à ses domestiques de courir sur ses traces. Mais le père Balivet était hors de leur portée et se moquait d'eux par un geste que je ne puis reproduire ici. Du reste, M. de Cambis ne faisait guère plus de scrupule de décharger son fusil sur un paysan que sur un renard. Il en avait déjà détérioré deux ou trois, qu'on appelait dans le pays les estropiés de M. Cambise, et plusieurs habitants, quasi notables de Camcy, avaient été victimes de ces très mauvaises plaisanteries. Quoiqu'il ne fût pas encore bien vieux, il y avait déjà dans la vie de cet honorable seigneur assez de sanglantes espiègleries pour faire deux forçats à perpétuité. Mais sa famille était bien à la cour. La protection de ses nobles cousins le mettait à l'abri de toute poursuite. Et au fait, chacun prend son plaisir où il le trouve. Le bon roi Louis XV, tandis qu'il prenait à Versailles de si doux et de si joyeux ébats, tandis qu'il donnait des fêtes aux gentilshommes de sa cour, ne voulait pas que ces gentilshommes de province s'ennuyassent dans leurs terres. Il aurait été très contrarié que les paysans à faire crier sous le bâton ou les bourgeois à désoler leur eussent fait faute. Louis dit le bien-aimé tenait à mériter l'amour que lui avaient décerné ses sujets. Ainsi donc, il est bien entendu que le marquis de Cambise était inviolable comme un roi constitutionnel et qu'il n'y avait pour lui ni justice ni maréchaussée. Benjamin aimait à déclamer contre M. de Cambise. Il appelait le Gessler des environs. Il manifestait souvent le désir de se trouver en la présence de cet homme, et ses souhaits ne furent que trop tôt accomplis, comme vous allez le voir. Mon oncle, en sa qualité de philosophe, se mit en contemplation devant les vieux créneaux noirs et ébréchés qui déchiraient l'azur du ciel. « Monsieur Rattray, lui dit le confrère, le tirant par la manche, « il faut pas beau autour de ce château, je vous en préviens. »«
Comment, monsieur Fatah, vous aussi vous avez peur d'un marquis ?»«
Mais monsieur Rattray, c'est que je suis, moi, un médecin à perruque. »«
Ah, mais voilà comme ils sont tous !» s'écria mon oncle, donnant un libre cours à son indignation. Ils sont 300 roturiers contre un gentilhomme, et ils souffrent qu'un gentilhomme leur passe sur le ventre. Encore s'aplatissent-ils le plus qu'ils peuvent, de peur que ce noble personnage ne trébuche.
Mais que voulez-vous, monsieur Rattray, contre la force?
Mais c'est vous qui avez la force, malheureux. Vous ressemblez au bœuf qui se laisse conduire par un enfant, de sa verte prairie à l'abattoir. Oh, le peuple est lâche, il est lâche. Oui, je le dis avec amertume, comme une mère dit que son enfant a mauvais cœur. Toujours il abandonne aux bourreaux ceux qui se sont sacrifiés pour lui, et s'il manque une corde pour les pendre, il se charge de la fournir. 2000 ans ont passé sur la cendre des Gracques, et 1750 ans sur le gibet de Jésus-Christ, et c'est toujours le même peuple. Il a quelquefois des lubies de courage. Il jette le feu par la bouche et les naseaux, mais la servitude est son état normal. Et il revient toujours, comme un serin apprivoisé revient toujours à sa cage. Vous voyez passer le torrent gonflé par un soudain orage et vous le prenez pour un fleuve. Vous repassez le lendemain et vous ne trouvez plus qu'un honteux filet d'eau qui se cache sous les herbes de ses rives. Et qui n'a laissé de son passage que quelques pailles aux branches des arbustes. Il est fort quand il veut l'être, mais prenez-y garde. Sa force ne dure qu'un instant. Ceux qui s'appuient sur lui bâtissent leur maison sur la face glacée d'un lac. En ce moment, un homme en riche costume de chasse traversait la route, suivi de chiens aboyants et d'une longue traînée de valets. Fata pâlit. « Monsieur de Cambyse, » dit-il à mon oncle, et il salua profondément. Mais Benjamin resta adroit et couvert comme un grand d'Espagne. Or, rien n'était plus propre à choquer le terrible marquis que l'outrecuidance de ce vilain qui lui refusait un banal hommage sur la lisière de ses domaines et en présence de son château. C'était d'ailleurs d'un très mauvais exemple et qui pouvait devenir contagieux. « Manant, » dit-il à mon oncle avec son air de gentilhomme, « pourquoi ne me salues-tu pas ?»« Et toi-même, » répondit mon oncle en le toisant du haut d'en bas de son œil gris, « pourquoi ne m'as-tu pas salué ?»« Ne sais-tu pas que je suis le marquis de Cambyse, seigneur de tout ce pays ?»« Et toi, ignores-tu que je suis Benjamin Rattray, docteur en médecine de Clamcy ?»« Ah, vraiment, » dit le marquis, « tu es carabin. » « Oh, je t'en fais mon compliment. Voilà un beau titre que tu as là. »« C'est un titre qui vaut bien le tien. Pour l'acquérir, il m'a fallu subir de longues et sérieuses études. Mais toi, ce que tu te mets devant ton nom, ce de, que t'a-t-il coûté ?»« Le roi peut faire 20 marquis par jour, mais je le défie, avec sa toute-puissance, de faire un médecin. Un médecin a son utilité, tu le reconnaîtras peut-être plus tard. » Mais un marquis, à quoi cela sert-il? Monsieur le marquis de Cambyse avait bien déjeuné ce jour-là. Il était de bonne humeur. Voilà, dit-il à son intendant, un plaisant original. J'aime bien l'avoir rencontré qu'un chevreuil. Et celui-là, ajouta-t-il en montrant Fata du doigt, quel est-il?
Monsieur Fata de Varzy, monseigneur. Dit le médecin, faisant une seconde génuflexion.
Fata, dit mon oncle, vous êtes un polisson, je m'en doutais. Mais vous me rendrez compte de ce procédé.
Ah ça, dit le marquis à Fata, est-ce que tu connais cet homme?
Oh, très peu, monsieur le marquis, je vous le jure, je ne le connaissais que pour avoir dîné avec lui chez monsieur Manxit. Mais du moment qu'il manque aux égards dus à votre noblesse, je ne le connais plus.
« Et moi, dit mon oncle, je commence à te connaître. »«
Comment, monsieur Fata de Varzy, poursuivit le marquis, est-ce que vous dînez chez ce drôle de Manxit ?»«
Oh, par hasard, monseigneur, un jour que je passais par Corvol. »«
Oh, je sais bien que ce Manxit n'est pas un homme à voir, c'est une tête brûlée, un homme entiché de sa fortune et qui se croit autant qu'un gentilhomme. »
Oh, qui m'a frappé de son biais par derrière.
Moi, dit Benjamin, de la part de monsieur Manxit.
Maintenant, dit le marquis, vous n'avez rien à faire ici, monsieur Fata. Laissez-moi avec votre compagnon de voyage. Ainsi donc, ajouta-t-il, s'adressant à mon oncle, tu persistes, toi, à ne pas me saluer.
Oh, si tu me salues le premier, je te saluerai le second, dit Benjamin.
Et c'est là ton dernier mot.
Oui.
Tu as bien réfléchi à ce que tu fais.
Écoute, dit mon oncle, je veux avoir de la déférence pour ton titre et te prouver combien je suis coulant en tout ce qui concerne l'étiquette.
Alors il tira un gros sou de sa poche et le faisant tourner en l'air,
« Demande pile ou face, » dit-il au marquis. « Gentil homme ou médecin, celui que le sort désignera saluera le premier. Il n'y aura pas à y revenir. »«
Insolent, » dit le gros intendant joufflu. « Ne voyez-vous pas que vous manquez de respect à monseigneur de la manière la plus scandaleuse? Oh, si j'étais à sa place, il y a longtemps que je vous aurais bâtonné. »
« Mon ami, répondit Benjamin, mêlez-vous de vos chiffres. Votre seigneur vous paye pour le voler, non pour lui donner des conseils. » En ce moment, un garde-chasse passa derrière mon oncle et d'un revers de main lui enleva son tricorne qui tomba dans la boue. Benjamin était d'une force musculaire peu commune. Il se retourne. Le garde avait encore aux lèvres le gros sourire qui avait fait épanouir son espièglerie. Mon oncle, d'un coup de son poing de fer, envoie l'homme à la banderole, moitié dans le fossé, moitié dans la haie qui abordait la route. Les camarades de celui-ci voulaient le tirer de sa position amphibie dans laquelle il se trouvait engagé. Même M. de Cambis s'y opposa. « Il faut, dit-il, que le drôle apprenne que le droit d'insolence n'appartient pas au vilain. Au fait, je ne conçois pas mon oncle, ordinairement si philosophe, de n'avoir pas cédé de bonne grâce à la nécessité. Je sais bien que c'est vexant pour un fier citoyen du peuple qui sent ce qu'il vaut d'être obligé de saluer un marquis. Mais quand nous sommes sous le coup de la force, notre libre arbitre est supprimé. Ce n'est plus une action qui se fait, c'est un résultat qui se produit. Nous ne sommes plus qu'une machine qui n'est point responsable de ses actes. L'homme qui nous fait violence est le seul auquel on puisse reprocher ce qu'il y a de honteux ou de coupable dans notre action. Aussi ai-je toujours regardé comme une obstination peu digne d'être canonisée la résistance invincible des martyrs à leurs persécuteurs. Vous voulez, vous, Antiochus, me jeter dans l'huile bouillante si je refuse de manger de la viande de porc. Je dois vous faire d'abord observer qu'on ne fait pas frire un homme comme un goujon. Mais si vous persistez dans vos exigences, je mange votre ragoût et même je le mange avec plaisir, s'il est bien accommodé. Car c'est à vous seul, Antiochus, que la digestion sera funeste. Vous, monsieur de Cambise, vous exigez votre fusil sur ma poitrine que je vous salue. Eh bien, marquis, j'ai l'honneur de vous saluer. Je sais bien qu'après cette formalité, vous n'en voudrez pas plus et que je n'en voudrai pas moins. Il n'y a qu'un cas où nous devons, quelque chose qu'il arrive, nous roidir contre la force. C'est quand on veut nous forcer de commettre un acte préjudiciable à la nation. Car nous n'avons pas le droit de faire passer notre intérêt personnel avant l'intérêt public. Mais enfin, telle n'était pas l'opinion de mon oncle. Comme il se tenait ferme dans son refus, M. de Cambise le fit saisir par ses valets et ordonna qu'on retournât au château. Benjamin, tiré par devant et poussé par derrière, empêtré dans son épée, protestait cependant de toute sa force contre la violence qu'on lui faisait subir, et trouvait moyen de distribuer à droite et à gauche quelques bourrades. Il y avait bien dans les champs voisins des paysans qui travaillaient. Mon oncle les appela à son secours, mais ils se gardèrent bien de faire droit à ses interpellations, et même ils rirent de son martyre pour faire leur cour au marquis. Quand on fut arrivé dans la cour du château, M. de Cambise ordonna qu'on fermât la porte. Il fit appeler tous ses gens au son de la cloche. On apporta deux fauteuils, un pour lui et un pour son intendant. Et il commença avec cet homme un semblant de délibération sur le sort de mon pauvre oncle. Lui, devant cette parodie de justice, se tenait toujours fier et même il avait conservé son air dédaigneux et goguenard. Le brave intendant opina 25 coups de fouet et 48 heures de cachot dans le vieux donjon. Mais le marquis était de bonne humeur, il avait même à ce qu'il paraît une pointe de scierie dans la tête. « As-tu quelque chose à alléguer pour ta défense ? » dit-il à Benjamin. « Viens avec moi, répondit celui-ci, avec ton épée, à 30 pas de ton château, et je te ferai connaître mes moyens de défense. » Alors le marquis se leva et dit « La justice, après en avoir délibéré, condamne l'individu ici présent à embrasser M. le marquis de Cambise, seigneur de tous ses environs, ex-lieutenant de mousquetaires, capitaine louvetier du bailliage de Clamcy, etc., etc., dans un endroit que mon dit seigneur de Cambise va lui faire connaître. et en même temps il défaisait son haut-de-chausse. La valetaille comprit son intention. Elle se mit à applaudir de toutes ses forces et à crier « Vive monsieur le marquis de Cambise !» Pour mon pauvre oncle, il mugissait de colère. Il dit plus tard qu'il avait craint d'être frappé d'apoplexie. Deux gardes-chasse le tenaient en joue. Ils avaient reçu ordre du marquis de tirer à son premier signal. « Une fois, deux fois, » dit celui-ci. Benjamin savait le marquis homme à exécuter sa menace. Il ne voulut pas courir la chance d'un coup de fusil et, quelques secondes après, la justice du marquis était satisfaite. « C'est très bien, » dit monsieur de Cambise, « je suis content de toi. Maintenant, tu peux te vanter d'avoir embrassé un marquis. » Il le fit conduire par deux gardes-chasse au port d'armes jusqu'à la porte cochère. Benjamin s'enfuit, pareil un chien auquel un mauvais gardement attachait un sabot à la queue. Comme il était sur la route de Convors, il ne se donna pas le temps de changer de direction et alla droit chez M. Minxit.